Le Club de Tamani.
Le Club de Tamani.
Votre émission de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani.
La culture.
Le sport.
La musique.
Les infos.
L'émission qui vous informe, cultive et divertit.
Au cœur des sociétés africaines, bien avant l'arrivée des tribunaux modernes, la culture et la tradition servaient de support à la cohésion sociale. Aujourd'hui, alors que le Mali fait face à des défis sécuritaires et sociaux majeurs, nous nous posons cette question. La culture peut-elle être le remède aux maux que nos sociétés connaissent? Pour en parler, le Club de Tamani a ce soir élu domicile à la place du Cinquantenaire, où se déroule justement depuis ce lundi 26 janvier la 11e édition du festival Ogobanya. Et nous avons l'immense honneur de recevoir un invité de marque, garant de la sagesse et des traditions séculaires chez les Dogons. Il s'agit du Ogon à la personne de M. Binogo Welegem. Il est également le premier secrétaire aux arts et à la culture de l'association Dina Dogon. Je suis Lala Diarra Touré, ma complice du jour, Aïssata Diarra, Nohum Djiré pour la technique. Bonsoir à tous et merci pour la confiance renouvelée à nos programmes. Aïcha.
Oui, Lala, bonsoir.
Seo.
Deneo.
Comment vas-tu?
Je vais bien, et toi?
Ça va?
Alhamdoulilah.
Comment tu trouves le festival?
Bon, le festival, je trouve quand même que c'est un lieu diversifié. Voilà. Il y a tellement de communautés et ça, c'est bon de vivre ça.
N'est-ce pas? Un lieu de brassage culturel, de rencontre.
De retrouvailles.
Et surtout, il y a pas mal d'articles qui ont attiré notre attention. On va faire un petit tour après l'émission. Mm-hmm. Alors, je te propose à présent de partir en musique.
Oui. Bonne idée, Lala. Et pour l'ouverture du bal, nous allons écouter Fé Mangala Kamara.
Il est ici accompagné de Maru Siriki Djavate et le titre est Sambuyaya.
Mangala Kamara à l'instant dans Sambu Yaya Lala.
Un duo entre l'akoura et une voix si belle ne peut donner que ce que nous venons d'écouter. Rappelons tout de même que Feu Mangala Kamara est décédé le 29 septembre 2010, Aïcha.
Oui Lala, et maintenant place à la revue de la presse.
La revue de la presse.
Bonsoir Moussa Malé, c'est un plaisir de te retrouver ce soir.
Bonsoir Lala, bonsoir Aïcha. À la une des journaux cette semaine, l'amélioration dans l'approvisionnement du carburant avec une réduction significative des files d'attente aux stations-service. Effectivement, Lala, ce retour progressif à la normale fait suite à un réapprovisionnement qui soulage ainsi les usagers après des semaines de pénurie. Le quotidien privé L'Indépendant barre à sa une. Plus de 54 millions de litres importés en 10 jours, la pression retombe à Bamako. Selon le journal, ces hydrocarbures ont été acheminés au Mali entre le 12 et le 21 janvier dernier. Ce flux massif de citernes a permis de desserrer l'étau dans de nombreux quartiers de la capitale où les longues files d'attente ont disparu, a écrit L'Indépendant. Ces volumes correspondent à plus de 1190 citernes entrées sur le territoire durant la période, précise l'hebdomadaire Journal du Mali. L'Alternance, un autre hebdomadaire, a renchéri. Il n'y a l'ombre d'aucun doute que de nombreuses stations-service étaient approvisionnées toute la semaine dernière en carburant. Cette accalmie cache-t-elle l'essoufflement financier des ménages, s'interroge le site Bamada sur la disparition des longues queues dans les stations-service. La fin du chaos, l'aube de la discipline, titre les Zénith Balais. Selon le bi-hebdomadaire, l'État a décidé de frapper fort avec l'application d'une nouvelle réglementation concernant le ravitaillement aux stations. Et le journal d'ajouter que cette démarche peut mettre fin à des mois de files interminables dans les stations-service à sec et des marchés noirs florissants qui narguaient surtout la dignité des citoyens. Désormais, chaque plainte devient un acte surveillé car un délai de 72 heures est imposé entre deux ravitaillements pour les véhicules et 48 heures pour les motos, souligne Infomatin. Le quotidien privé explique que les plaques d'immatriculation et vignettes sont enregistrées, photographiées et intégrées dans un système de traçabilité censé couper l'oxygène au marché noir et au circuit de détournement. Toutefois, le journal souligne que le pari de tout numérique suppose un minimum d'infrastructures que le pays ne maîtrise pas encore. Les coupures d'électricité à répétition, la connexion Internet instable, les zones rurales hors réseau et les stations-service dépourvues d'équipements adéquats. La fracture numérique transforme la traçabilité en mirage administratif, commente Infomatin. C'est tout pour la revue de la presse de cette semaine. Lala, bonne suite d'émission.
Merci beaucoup, vous Moussa Sissoko, et à tout à l'heure pour la version en langue nationale. Bamanankan.
Maintenant, Lala, allons de ses pas voir ce qu'il y a dans les coulisses de l'info.
Les coulisses de l'info.
Et ce soir, c'est lui qui va guider nos pas dans les coulisses de l'info. Et Gerata Meiga, Gerata, bonsoir.
Bonsoir Lala, bonsoir Aïcha, bonsoir à nos auditeurs.
Alors, de quoi il est question ce soir, Gerata?
Aujourd'hui, nous allons parler de la veille éditoriale. C'est quoi la veille éditoriale? Quelle est son importance dans le travail journalistique? Pour plus de précisions, écoutons Massiré Diop, journaliste au Journal du Mali. Bonsoir Monsieur Diop. Alors, pouvez-vous nous dire c'est quoi la veille éditoriale?
La veille éditoriale, c'est tout simplement le fait de suivre au quotidien l'actualité, le fait d'observer également ce que les autres médias publient, les institutions, acteurs politiques et les autres. Ce qui peut nous permettre de comprendre un peu les tendances et repérer les informations importantes afin d'anticiper les sujets. Donc pour nous, c'est extrêmement important.
Est-ce que vous faites la veille éditoriale dans votre rédaction? Si oui, comment?
Je dis oui parce que il est important de suivre ce que les journaux sur le plan national et international disent, suivre également les communiqués et les déclarations et aussi suivant également les informations à travers les autres canaux comme la radio, la télé, les sites d'information. Et nous faisons également de la revue pour également préparer les sujets que nous avons que nous devons traiter. Et nous procédons parfois également à des vérifications de certaines informations, parce que surtout ça relève d'une certaine sensibilité pour pouvoir le traiter de façon plus approfondie, c'est-à-dire de vérifier d'abord pour voir la véracité de cette information.
Quelle peut être son importance dans le travail journalistique, selon vous?
Tout ce qui est de l'importance de la veille éditoriale dans le travail journalistique, pour moi, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important à plusieurs titres, parce que ça peut permettre un peu de lutter contre la désinformation et tout ce qui est rumeur. Et ça peut également nous permettre de mieux comprendre les enjeux qui sont derrière l'actualité. Et il arrive souvent qu'à travers la veille, que nous traitons des sujets avec plus de recul et de responsabilité, faire en sorte aussi que nos productions soient beaucoup plus enrichies parce que nous avons plus le temps de passer en revue toutes les questions pratiquement sur tous les plans.
Dans ce contexte de désinformation, est-ce que les médias sociaux sont aussi des moyens pour faire la veille éditoriale?
Les médias sociaux, je répondrai par oui. Les réseaux sociaux servent effectivement de veille. Mais on prend les informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux ou autres à travers beaucoup de recul. Parce qu'on ne peut pas tout simplement voir une information et puis les publier comme ça sans prendre du recul. Procédons d'abord à leur vérification, à leur recoupement à travers des sources fiables.
Merci beaucoup Gerata et à très vite pour d'autres astuces. Nous accueillons à présent l'invité culture.
L'invité culture.
Je l'ai annoncé en début d'émission, celui que nous recevons ce soir est le garant de la sagesse et des traditions chez les Dogons. Il s'agit du Ogon, M. Binogo Olegem. Il est également le premier secrétaire aux arts et à la culture de l'association Dina Dogon. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous recevoir à Ogobania 11.
Bonsoir.
Alors, d'entrée du jeu, quel est le rôle du Ogon dans le maintien de l'entente entre les membres de sa communauté?
Merci. Le Ogon, c'est l'incarnation du pouvoir au niveau du, de la communauté d'Obo. Quand on dit on a un village, une contrée, le responsable, le garant, c'est-à-dire l'autorité morale de cette contrée, c'est le Obo qui joue ce rôle. Un rôle de veiller à ce que dans la communauté, il y ait l'entente, l'harmonie, la paix, le vivre ensemble et veiller à ce que l'hivernage, faire des bénédictions, faire recours à nos ancêtres pour qu'on puisse avoir une bonne récolte. Comme vous le savez, les pays d'Obo, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, je peux dire agriculture grand A, protection de l'environnement, ainsi de suite. Donc, le Obo est chaque année sollicité avec les différents patriarches pour faire des prières afin que l'hivernage soit bon. Au niveau de la société également, quand il y a des disputes, des problèmes, ainsi de suite, c'est géré à travers les assistants, les patriarches qui sont là, chacun dans son rôle, arrive à mettre en synergie pour pouvoir effectivement que la communauté vive en paix.
Justement, comment cette gestion des conflits-là se matérialise? Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place en milieu d'Ogon?
Tout est lié à la discipline, au respect de soi d'abord, après le respect des consignes pour qu'il y ait moins de problèmes. Et cette gestion se fait au niveau de la famille, des familles, et de la famille, si on n'arrive pas à résoudre les problèmes, il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup d'implications. Nous avons bien sûr un mécanisme, chaque parole qui doit parler, et c'est hiérarchisé, donc le respect de la hiérarchie fait en milieu femmes aussi bien qu'en milieu homme, et on essaye de gérer les problèmes. Alors, à la limite, c'est quand un problème arrive à Ogon, c'est un peu quelque chose qui est un peu difficile. Et là, le dernier mot revient au Ogon. Et le Ogon ne décide jamais seul. Il a toujours ses conseillers, les patriarches, il fait recours à tout le monde avant de prendre la décision.
Voilà. Vous avez parlé de dernier mot qui revient au Ogon. Est-ce à dire qu'il a un pouvoir de coercition?
Un pouvoir de coercition, ça c'est trop dire, tout est concerté.
D'accord.
Selon vous, quelles valeurs culturelles avons-nous oubliées aujourd'hui? Et qu'est-ce qui explique la multiplication des conflits?
C'est le gain facile. Les gens ont cessé de travailler pour vivre de leur travail. Le plus facile, on a tendance à aller vers le plus facile. Le Dogon, tout ce qui est facile n'est pas durable. C'est comme ça que le Dogon, il comprend les choses. Mais aujourd'hui, on se rend compte que effectivement, il y a cette cupidité qui prend le dessus sur tout ce qui est bon sens.
D'accord. Quelle est la valeur du Toguna en milieu Dogon?
Toguna, c'est un repère, c'est un espace de cohésion où les sages se retrouvent, ils échangent naturellement, l'animation est là et toutes les informations sont portées au niveau du Toguna, puisque c'est des patriarches, des chefs de famille qui se retrouvent. Le matin, on échange et à partir de là, on comprend que il y a problème ou il n'y a pas problème. Quand il y a problème, on discute sous le Toguna. Et le Toguna, c'est à peu près la première construction, sinon je peux dire, quand un village doit être installé, la première des choses, c'est cet abri-là qu'on essaie de construire. Et vous verrez généralement que le Toguna est placé à un point stratégique du village, où on se rend compte, étant assis au Toguna, on voit qui vient d'où. Et c'est un peu un point comme un carrefour où les vieux se retrouvent. Et quand l'étranger il vient, on sait qu'un étranger est arrivé. automatiquement les gens l'orientent et puis ainsi de suite. Ça veut dire qu'un étranger ne peut pas venir dans le village sans que quelqu'un ne soit au courant. Ça, c'est un peu stratégique.
Merci beaucoup, assez intéressant tout ça. Mais si vous le permettez, M. Oleguem, nous allons marquer une petite pause musicale avant de continuer.
Et oui, là, une pause, on ne fait généralement pas du mal. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter?
Alors, nous allons partir au pays d'Ogon et nous allons écouter Petit Goro, il chante ici Balamba.
Janvier 2021, c'est la date de sortie de ces titres des Petits Goro Lala.
Oui, Monsieur Oleguem, Balamba, ça veut dire quoi en Dorosso?
Balamba, ça reporte à la lutte traditionnelle.
Ah, d'accord.
La lutte traditionnelle, le champion, il est appelé Balamba. Et donc, ce Balamba mérite d'être chanté.
D'accord. Revenons à nos mouettons, Aïcha.
Oui, Lala.
Selon vous, Monsieur Oleguem, quel rôle joue le cousinage à plaisanter dans le désamorçage des crises communautaires au Mali?
Ce cousinage, c'est un peu, vous savez, c'est un élément d'apaisement de la communauté. Et le cousinage, ce n'est pas seulement entre des ethnies, mais chez nous, le cousinage, il y a plusieurs étapes. En famille déjà, même entre les enfants, des frères, par exemple l'enfant de la sœur et l'enfant du frère, et déjà il y a ce cousinage, à plaisanterie,
oui.
Où ils s'amusent, ils se provoquent. Bon, moi je suis le fils du garçon, toi tu es mon captif, ainsi de suite. Bon, en dehors de la famille, il y a aussi des villages, entre les villages. Ta maman est venue de tel village, ce sont tes oncles. De l'autre côté, ce sont les petits-fils ou les fils. Et là aussi, entre deux villages, il y a des cousinages.
Absolument.
Et il y a aussi les cousinages entre nous, si, parmi les, nous les Dogons, les Sonrai, les Bozo, les Tamashek, Touareg. Tout ça, c'est des cousinages qui sont là, séculaires. C'est dû au fait que nos ancêtres ont eu à vivre ensemble et ils ont eu à se faire confiance. Et si vous remarquez, le pays d'Ogon, c'est la culture du mil.
Oui.
Et le nord, c'est d'où vient le sel.
Oui.
Donc il y a un peu ce voyage qui se faisaient depuis des temps anciens et qui ont amené les hommes du Nord à venir vers... En ce moment, il n'y avait pas l'argent, il y avait des échanges.
Oui.
Tu amènes du sel, moi j'ai du mil, j'échange, ainsi de suite. Et la cohabitation faisait qu'il y a eu ce cousinage entre nous.
Merci, M. Oleguem. Alors, en quoi le festival Ogobanya peut-il justement être un outil de dialogue entre les communautés?
Oui, à la conception de Ogobanya, nous avons déjà réfléchi sur cet aspect, que le festival Ogobanya doit être un festival de cohésion avec les autres communautés. Les communautés, toutes les communautés au Mali et à l'extérieur, puisque Ogobanya aujourd'hui, ce n'est pas que les communautés du Mali, c'est les communautés de la Guinée, c'est les communautés de la Côte d'Ivoire qui sont en train de participer à Ogobanya par rapport à l'ouverture que nous avons eue. Et à la conception déjà, on a dédié 3 nuits qui, depuis la première édition, les nuits de cohésion sociale, puisque Ogobanya est né dans la douleur quand le Mali était en train de tanguer.
Oui.
Et le Mali était envahi et les terroristes avaient terrorisé déjà l'esprit des Maliens. Chacun cherchait à se cacher. En ce moment, nous avons dit, c'est de céder. Il ne faut pas céder, il faut résister. Et voilà, nous avons eu la chance en ce moment de rencontrer une dame Peul, qui était ministre de la Culture. Et c'est elle qui a dit, vous n'êtes pas en train d'organiser des fêtes, mais vous êtes en train de vous organiser pour résister. Puisque là où tout le monde a eu peur, personne ne croyait, vous avez décidé en 2016 une première édition festival où tout le monde nous tentait de croire que nous étions des fous, des malades mentaux. Au moment où chacun est en train de chercher un abri, une cachette, vous voulez sortir manifester. Ça, elle a qualifié ça de résistance au lieu de manifestation simple.
Belle résistance en tout cas, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que la justice traditionnelle apporte de plus que la justice moderne, celle que nous connaissons aujourd'hui dans la réconciliation des cœurs?
La justice en milieu Dogon, traditionnellement, c'est de prévenir les conflits. Avant de gérer, il faut prévenir, éviter les conflits. Et ça, c'était le plus important. Et c'est ce qui a minimisé les conflits. Mais aujourd'hui, et avec la cupidité des uns et des autres, le gain de l'argent, et le mensonge a pris le dessus sur la vérité et les moyens ont pris le dessus sur ceux qui n'ont pas les moyens, ce qui fait qu'il n'y a pas de justice. S'il y a justice, il faudrait revenir et faire recours à notre culture pour minimiser, puisque tout ce qui enrichit est entretenu.
Alors, Monsieur Wolagem, si vous aviez un conseil à donner aux décideurs qui cherchent la paix au Mali, quel serait-il au nom de la tradition?
Oui, ben, au nom de la tradition, je vous dis que c'est une bonne idée que le président de la République a décidé que la culture soit mise au centre des activités, des actions gouvernementales. Malheureusement, l'idée est là, mais les moyens ne suivent pas. Les actions ne suivent pas. Et c'est cela qu'il faut arrêter. Quand on décide d'aller à quelque chose, il faut le faire jusqu'au bout. Nous, c'est ce qu'on fait. Chez les Dogons, on parle moins et on agit. Malheureusement, c'est la parole qui prend le dessus et c'est les manifestations festives qu'on a mis devant au lieu des actes concrets qui mettent les gens ensemble. Je veux dire, l'année de la culture, c'est des réalisations qu'on devrait voir. Malheureusement, c'est des fêtes, des danses. Voilà, ce n'est pas pour critiquer, c'est pour construire et orienter. Nous sommes en train de gérer le Mali avec l'administration coloniale. Et si on continue à gérer avec l'administration coloniale, nous n'aurons jamais la paix. Si on dit journée, je crois,
des légitimités traditionnelles.
Alors, quelles sont les légitimités traditionnelles? Cette question, elle est importante pour nous qui sommes dans la culture. Aujourd'hui, les chefs de village sont les légitimités traditionnelles. Et qui a construit les chefs de village? C'est les colons qui ont construit et qui ont proposé que le pied attache les mains. Dans un village, ils viennent. La personne la plus docile, qui répond à leurs critères, est érigée en chef de village, en chef de canton. Et celui-là qui défend la culture, déjà, on l'ignore et on le fait attacher et on le fait peur. Et tout le monde s'est résigné. Et aujourd'hui, le Ogon ne fait pas partie des légitimités traditionnelles conçues par l'administration. C'est les chefs de village qui sont appelés. Chez nous, il n'y a pas de chef de village. C'est le Ogon, celui qui est consciencieusement installé. Tout est politisé. Il y a eu une période où la politique s'est mêlée des chefferies et a dénaturé tout. Il y a beaucoup à construire. Mais pourtant, ceux qui le savent ne sont pas appelés à la décision. C'est ceux qui sont politiques qui continuent encore à manipuler des personnes qui les sont favorables. Il y a matière à réflexion et travailler là-dessus. Tout ça, c'est des contenus. Il faut aller au fond. mais nous sommes superficiels, malheureusement.
Malheureusement, le constat il est amer. Nous espérons que ce cri de cœur atteindra oreille attentive. Merci infiniment, M. Binogo Welegem, d'avoir répondu à nos questions. Mais nous restons ensemble car l'émission n'est pas encore finie, Aïcha.
Oui, là, il est l'heure des infos sports.
Et comme tous les vendredis, il est là, fidèle au poste, Khalifa Goïta, le coach sportif maison. Khalifa, bonsoir.
Bonsoir Lala, bonsoir à vous également, chers auditeurs. Ravi de vous retrouver. Tout d'abord, en compétition africaine des clubs, les deux représentants du Mali, le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC, jouent ce week-end pour le compte de la quatrième journée de la phase de groupe. En Ligue des Champions, le Stade malien jouera en déplacement ce samedi à 16h contre Petro Atlético d'Angola, battu d'ailleurs par les Blancs de Bamako lors de la troisième journée des Euros. Grâce à cette belle victoire, les Stadis ont terminé la phase aller à la tête du groupe 2 avec 7 points. Cependant, la machine a du mal à fonctionner pour le Djoliba AC en Coupe de la Confédération. Pour cause, en déplacement lors de la troisième journée, les Rouges de Bamako se sont inclinés 2-0 le week-end dernier face à l'USM d'Alger en Algérie. Ce dimanche, ils recevront les Algériens au stade du 26 mars à 16h. Toujours pas le moindre point pour le Djoliba AC dans cette compétition. Le championnat national de Ligue 1 se poursuit avec la 12e journée qui a débuté cet après-midi. En ce moment même, au stade Wenzin Koulibaly, FC Mali Croix reçoit Derby Academy. Après juste cette rencontre à 18h, FC Diarra et US Bougouba s'affrontent. Ce samedi, trois rencontres sont au programme. AS Bakaridja, 11 créateurs, Isfas US Bougouni et Asco Afé. Les matchs AS Real de Bamako, Djoliba AC et Binga FC Stade Malien de Bamako sont reportés à une date ultérieure. Par ailleurs, tous les regards sont tournés vers l'élection pour le poste de président de la Fédération Malienne de Taekwondo prévue ce samedi à Bamako. La commission de dépouillement des dossiers de candidature a rendu les résultats de ses travaux. Au total, ils sont trois dans la course. Il s'agit du président sortant, Dr Alioune Badra Traoré, Mme Sik Aminata Makou Traoré et de Yacouba Samake. C'est une échéance décisive pour l'avenir du taekwondo malien, peut-on dire. En handball, le président de la Fédération malienne de handball, commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, a été élu président de la zone 2 de la Confédération africaine de handball. Rappelons que cette élection s'est tenue le 29 décembre 2025. En Égypte. Cette semaine, le premier responsable du handball malien a rencontré le ministre des Sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. L'objectif de cette visite était de remercier les autorités du Mali pour leur soutien et accompagnement. C'est l'essentiel des informations d'aujourd'hui, Lala Touré.
Merci beaucoup, Khalifa, et à la semaine prochaine. Plaise à Dieu.
Oui, et comme à l'accoutumée, nous avons choisi une belle musique pour lui souhaiter bon week-end.
Et oui, Lala, les duos emblématiques qui a fait la pluie et le beau temps musicalement. Il s'agit de Ali Farka Touré et Oumou Sankaré. Ils chantent ici Bandoloburu.
Alla le nudo le uru, so wadi kamule, so wadi bago bandolo buru, dudur bihaya. So haye orang, so nyende haye finale, so harajande findi, diko fati dogu. Adeso kersinabin Diko fati daradon Adeso muru sinabin Doguda benjalete
Bandoloburu, un titre de Ali Farka et Oumou Sangaré à l'instant sur les platines de Nohom Diré. Retrouvons pour la seconde fois Moussa Malé Sissoko pour la revue de la presse en langue nationale Bamanankan.
La revue de la presse.
Moussa Malé Sissoko, bismillah. Alors, Bamanankan, pour nous faire un peu de temps.
Amba, je vais vous donner un peu de temps. Nous sommes allés dans le cas où nous sommes.
Lala ikadon kafo konoya bare dona taji doni jamana kono ana fereli stationa jamana deuma kuna fondila ukumano de kan kosobe doakwin konnana tie don abina fo ambeka segi kata anta bolokorola omie jamana deun ki jo stationa kataji kukunoyala kasoro umadegun kuna foni gafe mimbewele ko l'independant ale konia ira kafo kaka chani taji litri million biduru aninani ode dona jamana kono tle tan kono nana ka damne janvier kalot le tanifla kata bla atle mwani kelena ko ni siterni nunu chama doni jamana kono nana ko kera sababu nyumaye kibaye kafo bamako faba konnana maubu jodron kataji kukun katemenu hajuye ayemie independant konnana journal du mali nalebebo doa kun kono chienkele akoko siterni bakele keme anibi kononto ode dona jamana kono wati kofolena l'alternance nalefenebebo doa kun kono chienkele ale okuma sonjila ko sikafo itala kabini doa kun temene ko station chamande taji soro bamako konnana bamada nalebe kuna fondi bololoka ale ayira kafo ko bon kunka bon 5 ans station na jama ube firi kataka kote kayeni watina yali koba ira kafo ko warde te mau kuntuguni wa bamada yo nyiningalike kuna fondi sebe mbe bo doa kun kono ko chienfla le zenith balé ale ira kafo ko jamana nyema uye barabake ka sabuke uye sharia kura minta nobina walia station na tajita tugo kayele madola ike oke katajita jateminebeke o fere doye mobile tugu olukonitina teme tajita liko flakan tle sabakon nana mie moto tugu taye tle fla de dila oluma aimi samanga bo info maten kon nana kuna fondi sebembe fesefeselike alsa ko mobile oluvien tibeta anuka plaque d'immatriculation olu bela jelen jabeta kabla uka base de données kono nana nga info maten ayira ka fo fene koni bara nunu bela jelen meke ni subhana mashunde wa ko andu jamana min konnana ina fosi sanno gelea damado be mimbato ni bara in be gelea jamana bolo kurantike bamali miye connection internet ye o basiglente ko min fana ye réseau ko ye o ka gele anga togo dawla ani minango tanya o be station tugula ko ni bara in kili kasa dana ka be gelea info maten ka fola lala jara touré ninde revue de la presse minan sanne amba fo an lame bago ye ku ka barka akwambe do akunwere
ini nje kosebe ikani kuna fulinjele nunu na sisoko ame kambe danyo kwenye doko kumwere ni alamanga jonya jwana. Aisha, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais la parole revient de droit à notre invité qui, je rappelle, est monsieur Binogo Wologem Le Ogon. Croyez-vous que la culture peut encore sauver le vivre ensemble au Mali, monsieur Wologem?
Seule la culture peut sauver le vivre ensemble. Seul, il faut qu'on fasse recours à nos traditions, à nos us, à nos coutumes. Qu'on soit nous-mêmes. Nous avons trop imité les autres. Il est temps que les autres nous imitent. Pour que les autres nous imitent, il faut qu'on soit nous-mêmes, on sache qui nous sommes, d'où nous venons et projeter d'où où aller.
Et c'est sur ces paroles de sagesse que nous refermons cette émission. Merci infiniment au Ogon pour ces éclairages précieux. Merci à vous, fidèles auditeurs, pour l'écoute attentive à la présentation. Lala Diara Touré et Aïssata Diara, à la coordination Sekou Gadigo, mise en onde Nohom Diré. Nous rappelons que le festival Ogobania se poursuit jusqu'au 1er février prochain. À très vite pour un autre numéro de votre émission Culture.